C'est l'heure d'aller joindre Olivier Beauregard. On jette un coup d'œil à ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le monde du sport. Olivier, bonjour.
Salut.
On commence en parlant scandale. Deux scandales en deux semaines chez les Sénateurs.
Oui, deux scandales en deux semaines chez les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, les Sénateurs sont pas épargnés cette année, là, avec des situations surtout hors glace. D'abord et avant tout, il y a eu la situation très complexe de Linus Ullmark, le gardien des Sénateurs d'Ottawa, qui s'est amené, rappelez-vous, par voie de transaction des Bruins de Boston. Enfin, on pensait qu'on avait réglé le problème de gardien de but à Ottawa. Et bon, Linus Ullmark, c'est un excellent gardien de but. Par contre, il n'a peut-être pas eu les performances ou, disons, la continuité des performances qu'on aurait aimé du côté d'Ottawa. Tellement que là, à un certain moment, il y a quelques semaines déjà, il a décidé de se retirer de l'équipe et de prendre quelques temps pour lui pour réfléchir. Et Sébastien, ça a pris 2 secondes pour que la machine à rumeurs s'emporte. Écoute, les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont catastrophiques. Là, on a parlé d'un vestiaire qui était divisé, des comportements hors glace chez les joueurs. On a parlé d'infidélité qui avait été dénoncée par Linus Ullmark à sa femme et que sa femme avait dénoncé ça aux autres femmes dans le vestiaire. Écoute, ça a fait le tour de la planète hockey pour des raisons qui touchent pas du tout le monde du hockey. Mm-hmm. Et là, ça a créé une tempête dans le vestiaire des Sénateurs, ça, il y a déjà quelques semaines. Tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les Sénateurs d'Ottawa se retrouvent dans une situation comme ça? Et là, ben, rappelez-vous, là, il n'y a pas si longtemps, Brady Tkachuk a fait un point de presse. On lui a posé la question, la situation avec Linus Ullmark, comment il voyait ça. Et je reprends ces mots, là, fermez les oreilles des enfants, là, mais il a dit, c'est de la bullshit. Toute cette histoire-là, c'est de la bullshit. Le fait que Linus a quitté l'équipe n'a rien à voir avec une situation comme ça. C'est inventé de toutes pièces. Alors, Linus Ullmark, on n'avait toujours pas entendu parler de lui jusqu'à cette semaine, une entrevue percutante réalisée avec les collègues de TSN où ils ont parlé justement à Linus Ullmark et lui a dit, écoutez, ça m'a frappé à quel point une situation comme ça peut affecter beaucoup de gens. C'était dans le cadre de la Journée Belle, vous savez, la Journée Belle qui rassemble un peu tous les problèmes associés à la santé mentale. On a décidé de parler à Linus Ullmark et Ullmark a dit, il y a tellement de gens qui ont été affectés par cette rumeur qui est partie de nulle part sur les réseaux sociaux, cette rumeur qui a affecté ma famille, la famille des joueurs, nos proches. Tout le monde se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Et pourtant, la seule et unique raison pour laquelle Linus Ullmark a quitté, selon ses dires, c'est qu'il avait besoin de temps pour lui parce que depuis cette transaction-là qu'il a envoyé avec les Sénateurs, il a senti qu'il vivait quelque chose d'extrêmement difficile envers lui-même. Il se remettait en question à savoir s'il aimait encore jouer au hockey, s'il avait encore la flamme. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il a décidé de quitter. Rien à voir avec les spéculations qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Mais écoute, ça a tellement été gros, Sébastien, cette histoire-là, qui a fait le tour de la Ligue nationale de hockey, que le directeur général des Sénateurs, Steve Staios, plutôt, a été obligé de faire un communiqué de presse important, sortir dans les médias et dire que la situation entourant son équipe et les rumeurs et les spéculations qui circulent sur les plateformes numériques, c'est scandaleux et qu'il condamnait justement tous les commentaires et les fausses rumeurs qui circulaient au sein de son vestiaire. Pour qu'un directeur général embarque là-dedans, là, c'est parce que visiblement, ça venait irriter le vestiaire de son équipe. Et il sentait justement que le vestiaire était divisé. Puis on l'a ressenti chez les performances des Sénateurs. Écoute, ça a été une descente aux enfers par la suite. Les Sénateurs qui... pas en mesure de gagner des matchs, pas en mesure de trouver une certaine constance dans leur jeu, se battent pour une place en séries éliminatoires, puis il n'y a encore rien de garanti. Là, le départ de Linus Ullmark amène Levi Merenhielen devant le filet pour quelques matchs, des performances en dents de scie, et c'est là qu'arrive le deuxième scandale, pas plus tard qu'en fin de semaine, Sébastien, lorsque Jake Sanderson, après le match contre le Canadien de Montréal à Ottawa, où Levi Merenhielen n'a pas été bon, Jake Sanderson, qui est un leader de cette équipe-là, défenseur des Sénateurs, a dit « Je pense qu'on a joué un bon match. Je pense qu'on a profité de nos occasions. » Mais il dit « À un moment donné, pour gagner un match de hockey, ça va prendre plus que 10 arrêts. » Écoute, c'est une flèche envoyée directement au gardien Levi Merenhielen. C'est une flèche qui n'a pas passé sous le silence, dont tout le monde a entendu parler, dont tout le monde a dit, ben là, écoutez, la situation avec Linus Ullmark, on parlait d'un vestiaire divisé, après les commentaires de Jake Sanderson, est-ce que c'est vraiment le cas? Ça commence à confirmer que c'est un vestiaire qui a de la misère. Et Jake Sanderson, ben, en bon politicien, a dû s'excuser quelques jours plus tard en disant « J'étais fâché sur le coup, j'aurais pas dû parler aux médias tout de suite après la rencontre parce que j'étais irrité de notre performance. J'ai rien contre Levi, c'était des propos qui sont sortis rapidement sans nécessairement trop réfléchir. » Facile à dire, ça, Sébastien. Là.
Ben oui.
C'est très, très, très facile à dire, là, parce que là, tu as rencontré les directeurs des communications, on a eu un petit retour sur ce qui s'était passé, les commentaires qui ont sorti de ça, puis on l'a préparé à justement faire des excuses publiques pour essayer de passer ça sous le silence. Puis ça m'amène à dire que deux scandales, puis le scandale, vous allez me dire, Olivier, c'est un gros mot, peut-être, mais mettez ces deux situations-là chez le Canadien de Montréal... Là, c'est plus qu'un scandale. Le départ de François Legault passe inaperçu. Tu comprends ce que je veux dire? Ça serait la plus grosse nouvelle. Heureusement que les sénateurs évoluent dans un marché comme Ottawa. Heureusement que les sénateurs n'ont pas nécessairement d'autant d'exposition médiatique que le Canadien, parce que c'est des histoires qui auraient pris de l'ampleur. Écoute, il y a tellement eu de commentaires... paraissent peut-être subtils aux yeux de tous, mais qui ne le sont pas du tout au courant des derniers jours chez les sénateurs d'Ottawa, que tu te dis, cette équipe-là va devoir faire attention. Il va falloir faire attention à nos propos hors glace, parce que présentement, ben ça fait pas nécessairement sérieux, puis on se pose des questions à savoir qu'est-ce qui se passe au sein de cette organisation-là. Je te donne un autre exemple, là. J'écoutais la conférence de presse qui a été donnée un peu plus tôt cette semaine, et ben c'est encore suite au match contre le Canadien de Montréal. Et je me rappelle pas quel joueur exactement, là, vous m'excuserez, je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a un joueur qui s'est fait demander la question, est-ce que tu t'as trouvé ça dur d'avoir autant de partisans du Canadien à être aussi bruyant à Ottawa après la victoire du Canadien, puis il a dit, c'est pas nouveau, on est habitué de jouer à l'extérieur, même dans des matchs à domicile.
Ouais.
Tu sais, là, tu lances une flèche à tes partisans, tu lances une flèche à ton coéquipier, puis deux, trois semaines avant ça, il y a ton gardien qui dit que tous les joueurs sont infidèles envers leurs femmes sur la route. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je vois pas comment les sénateurs peuvent se sortir d'une situation comme ça. Puis je regarde Travis Green, l'entraîneur-chef. Là. Lui, là, il faut qu'il gagne des games de hockey. Mais en ce moment, il n'y a pas personne qui parle de hockey chez les sénateurs. On parle juste de ce qui se passe hors glace. Honnêtement, c'est le pire scénario pour une organisation sportive. Quand un vestiaire comme ça commence à, je vais dire, déraper, là, c'est peut-être un gros mot, mais commence à avoir des petites brèches où on voit que, ben, visiblement, il se passe quelque chose qui ne sent pas très, très bon.
Peut-être qu'éventuellement, il y aura un ménage, comme un ménage a été fait chez les Bills, Olivier.
Oh, c'est un très bon lien et c'est un lien qui me brise le cœur, Sébastien, parce que vous le savez à quel point les Bills de Buffalo, pour moi, c'est mon équipe dans la NFL. C'est l'équipe qui, à chaque année, à pareille date, me font sacrer parce que, après tous les succès de la saison régulière, sont pas capables de se rendre au fameux Super Bowl. Et c'est triste parce que les Bills de Buffalo se sont inclinés le week-end dernier contre les Broncos de Denver dans un match complètement fou, 33-20. Mais c'était pas un match complètement fou pour les Bills parce qu'ils ont connu des ratés importants que tu ne dois pas connaître en séries éliminatoires. 5 revirements causés dans ce match-là, c'est inacceptable. Mais ce qui est arrivé, puis tu l'as mentionné, c'est ce qui a suivi cette défaite-là. Écoute, le propriétaire du club, Terry Pegula, est allé devant la presse. On a congédié l'entraîneur-chef Sean McDermott, qui est là depuis 2017. Puis permettez-moi de vous dire que McDermott a changé l'image de cette organisation-là. Là. Quand il est arrivé à la barre de cette équipe-là en 2017, là, les Bills n'avaient pas participé aux séries éliminatoires depuis des années. Ça faisait des années que c'était pas arrivé une participation en série. Écoute, je pense que c'est 17 années consécutives. C'est énorme. Sean McDermott est arrivé, lui, il a changé complètement la dynamique. Tu vas me dire, ben oui, ils ont eu aussi Josh Allen. Absolument. Sauf qu'il y a quand même eu un changement de garde. Donc, le congédiement de Sean McDermott m'étonne, oui et non. D'une certaine façon, oui, parce que c'est un gars qui a amené vraiment cette équipe-là à un autre niveau. Par contre, on n'était jamais capable d'atteindre la dernière marche. Puis c'est ça qui est arrivé. Parce que à toutes les années, rappelle-toi, Sébastien, je ne sais pas combien d'années qu'on se parle, mais ça fait plusieurs années que je te dis, les Bills devraient connaître un bon parcours éliminatoire. Je les vois, là. Je les vois être là plus longtemps. Mais la réalité, c'est que depuis que McDermott est en arrière du banc des Bills, c'est 8 victoires en éliminatoire et 8 défaites. C'est un dossier qui est épouvantable. Quand tu connais 7 saisons d'affilée avec 10 victoires ou plus en calendrier régulier, comment ça se fait que dans les matchs qui comptent, t'es pas capable de continuer ton parcours? On a questionné un peu, justement, le leadership de Sean McDermott. Moi, ce que ça me dit, c'est que oui, peut-être qu'on avait besoin d'un nouveau discours, d'une nouvelle voix au sein du vestiaire, mais quand j'ai écouté les propos des joueurs, il n'y a pas personne qui avait l'air d'être content de voir Sean McDermott partir. Mm-hmm. Je remets pas en doute ce que les joueurs aimaient de lui. Ce que je remets en doute de Sean McDermott, c'est qu'il n'a pas été capable de soutirer le meilleur de ses joueurs, ou du moins de les préparer suffisamment pour tout ce que peut t'amener un match de séries éliminatoires dans la NFL, parce que au détriment d'un corps arrière qui ne connaît pas de séquence, il y avait une défensive également qui en arrachait contre les Broncos. Et un moment donné, la NFL, c'est plate, mais la formule de la NFL en séries éliminatoires, c'est un match. Si tu le perds, c'est fini. Et c'est un peu ça que je pense qu'on était tanné. Alors, il y aura un processus d'embauche chez les Bills. On l'a déjà dit du côté des Bills de Buffalo lors d'un point de presse cette semaine, comme je vous disais. Pergula a dit que le processus va être enclenché. On va même mêler Josh Allen avec l'embauche du prochain entraîneur-chef. Puis c'est intéressant parce que Pergula a dit que Allen n'a pas eu son mot à dire dans le congédiement de McDermott. C'est quand même un peu étrange, là. Généralement, tu veux aller voir ton joueur de franchise, à savoir... On a-tu besoin d'un changement de garde? Mm-hmm. Là, on a décidé de prendre la décision sans même consulter notre corps arrière vedette, mais on dit qu'il sera consulté pour l'embauche du prochain entraîneur-chef. Il y a déjà des noms qui circulent, mais ça, c'est pas le temps de parler de spéculation parce qu'il reste encore du très, très beau football à jouer en fin de semaine. On se dirige tranquillement, mais sûrement vers le Super Bowl et il y a des équipes qui me surprennent. Écoute, le tableau éliminatoire est quand même très intéressant pour les équipes qui y restent. Je pense qu'on va avoir le droit à un bon Super Bowl d'ici les prochaines semaines.
Et on aura l'occasion de s'en reparler assurément. Mais là, tu voulais nous parler en terminant d'une sévère suspension d'Hockey Québec. Une suspension qui pourrait créer un précédent, là.
Ouais, ça s'est passé en finale du dernier tournoi provincial M18 d'Alma en Division 1. Il y a quelques jours de ça. C'est un jeune joueur, Elliot Tremblay, qui, après avoir marqué un filet... a fait une célébration qui a mal passé aux yeux d'Hockey Québec. Écoute, pris son hockey, il l'a lancé dans les estrades après sa victoire à des partisans et il a célébré sur la glace. Bon, tu vas me dire, OK, c'est un peu exagéré. Oui. Est-ce que ça doit être une suspension de 4 matchs? Parce qu'on parle d'une suspension de 4 matchs pour lui. Pénalité d'extrême inconduite quand c'est arrivé cet incident-là. Alors, c'est sévère. Oui, c'est sévère. Par contre, je pense que ça va nous permettre d'établir des bases dans le hockey scolaire, dans le hockey, dans la structure de hockey Québec, parce que ça reste un sport où le respect n'est pas nécessairement toujours, je vais dire, respecté. Mm-hmm. J'ai comme l'impression qu'on veut élever nos jeunes non seulement en étant de bons athlètes, mais aussi de bonnes personnes. Puis ça, là, des célébrations comme ça, faut faire attention, faut justement éviter qu'il y ait des débordements. Puis je pense que ce message-là qu'on a envoyé du côté d'Hockey Québec, c'est de dire, écoutez, là, pour les prochains, là, pensez-y même pas. Là. Vous avez le droit de lever le bras dans les airs, fêter avec vos coéquipiers. Mais à un moment donné, on va se calmer, puis on va aussi ne pas nuire puis narguer l'adversaire. Lancer un bâton dans les estrades, écoute, c'est tel que tel, mais est-ce qu'on a besoin de faire ça après une célébration pour avoir marqué un but? Si on commence à faire ça, jusqu'où on va aller, Sébastien? Tu sais, c'est ça un peu la vraie question. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle qui doivent dire hey, il est perdu, laissons les jeunes célébrer, c'est le fun. Moi, je pense que pour éviter des débordements, c'était peut-être une bonne chose à faire. Est-ce que 4 matchs, c'était nécessaire? Peut-être que c'est un peu extrémiste, mais je pense quand même qu'au final, le fondamental de tout ça, c'est de dire aux jeunes, pincez-vous un petit peu, là. Gardons l'éthique de respect dans nos matchs. Gardons justement cette saine compétition-là. Mais ce qui m'a un peu plus insulté, Sébastien, pas insulté, mais ce qui m'a un peu fait réfléchir au niveau de cette célébration-là, c'est qu'il n'y a pas plus tard que quelques matchs, il y a du côté du Mammouth de Utah, Clayton Keller qui a fait la même célébration dans la Ligue nationale. Il a pris son hockey puis il l'a lancé dans les estrades.
Ouais, mais ben là, les jeunes, ils prennent des exemples quelque part à un moment donné, c'est ça.
Ben exactement. Est-ce que le jeune, en quelque part, a fait ça? Je pense que oui. Est-ce que la Ligue nationale de hockey a condamné ça? Pas du tout. Alors, tu sais, des fois, on a l'impression de parler des deux côtés de la bouche. Je comprends que c'est pas la même ligue, mais il faudrait peut-être aussi être respectueux dans tous les circuits qui existent et de justement se rappeler qu'on est un peu l'image qu'on veut projeter à une prochaine génération. Puis je pense que ce jeune-là a été victime justement d'avoir vu cette vidéo-là circuler sur les réseaux sociaux, puis d'avoir voulu répéter ça. Malheureusement, ben il va écoper pour plusieurs moments. Alors, c'est une suspension qui nous ont fait savoir Hockey Québec, une suspension qui sera maintenue. Puis il y aura pas d'appel envers ça. On va de l'avant. Alors, bref, c'était une petite anecdote, mais qui rappelle à quel point le sport, c'est le fun. Mais faut que ça se fasse dans le respect, puis il y a un certain côté éthique à respecter. Moi, je suis pas contre ça. Au contraire, je veux que les jeunes puissent s'amuser sans nécessairement que ça tourne à la foire.
Puis oui, c'est pas parce qu'on le voit à la télé que c'est correct. C'est
et
ça.
Voilà!
Olivier Beauregard, un grand merci. On se reparle la semaine prochaine.
Absolument. Merci. Bye-bye.